Je crois qu'on ne peut pas faire autrement que demander au pasteur Alain Ouzio ce qu'il pense de ces suppositions.
C'est déjà bien difficile de croire en Dieu, alors pourquoi croire au diable en plus? Ça complique les choses. Remarquez, c'est plus simple, me semble-t-il, de croire à la fois en Dieu et à Satan que en Dieu seul. Pourquoi? Parce que si on croit aux deux, eh bien, on considère un peu notre monde comme la lisse, comme l'air d'un combat entre les forces du bien d'un côté et les forces du mal de l'autre. Donc c'est relativement simple, c'est la solution du dualisme ou du manichéisme qui finalement est tout à fait acceptable. Il y a dans ce monde des forces qui sont des forces de vie, il y en a d'autres qui sont des forces de mort, il y a des forces de division, comme ça a été dit, il y a des forces de réconciliation, et donc finalement le monde est le lieu qui est l'objet d'un enjeu entre deux forces contraires. Donc d'une certaine manière, je crois que c'est plus simple de croire à la fois à Dieu et à Satan que à Dieu tout seul. Et c'est certainement à cause de cela que Satan a une telle popularité et qu'il est un personnage tellement obsédant, à la fois dans les romans et ailleurs. Bon, du point de vue biblique, c'est pas comme ça que c'est indiqué. Pourtant, ça serait quand même extrêmement simple. La Bible s'est construite sur une sorte de pari, qui est une forme de paradoxe, à savoir qu'il y a un seul Dieu. Et en ceci, elle s'est nettement différenciée des religions polythéistes et animistes où finalement chacune des énergies, pourrait-on dire, de ce monde, pour prendre un terme qui a son heure de gloire depuis le courant New Age actuel, chacune des énergies de ce monde a un nom et donc constitue un dieu. Alors c'est effectivement se compliquer énormément les choses que de dire qu'il y a un dieu et un seul dieu. D'ailleurs, il faut constater que la Bible s'en est pas très bien tirée de cette manière de voir les choses. Je prends un exemple. Dans les écrits les plus anciens, c'est Dieu lui-même qui conduit Abraham à aller sacrifier son fils. Vous connaissez cette histoire qui est la plus horrible de toutes les histoires de l'Ancien Testament, où Dieu, après avoir donné à Abraham un fils relativement tardivement, lui dit, il faut que tu ailles sacrifier ce fils. Bon, alors, on essaye de dire pourquoi il faut sacrifier son fils. C'est pour qu'il apprenne à être libre vis-à-vis de ce fils, ou bien il faut qu'il apprenne à recevoir une deuxième fois ce fils comme un cadeau venant de Dieu, ou bien qu'il sache renoncer à ce qu'il y a de plus précieux en lui. Enfin bon, il y a un certain nombre d'explications qui sont d'ailleurs intéressantes et certaines plausibles, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est Dieu qui, apparemment, demande cet acte horrible de sacrifier le Fils. Mais si vous prenez la même histoire racontée plus tardivement dans des écrits beaucoup plus postérieurs, dans les écrits qu'on appelle les écrits intertestamentaires, eh bien, ce n'est pas Dieu qui demande ça, mais c'est Satan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les auteurs juifs n'ont pas supporté que l'on puisse imaginer que Dieu puisse vouloir une telle cruauté. Donc finalement, on arrive à une sorte de situation où chaque fois que Dieu demande quelque chose qui est manifestement immoral et pourrait-on dire inhumain et qui scandalise en fait notre piété et notre bon sens, eh bien au lieu de mettre Dieu, eh bien on met Satan. Vous avez un autre exemple, c'est l'exemple du prologue de Job, qui est particulièrement clair là-dessus, où finalement c'est Satan qui vient suggérer à Dieu que Job soit induit en tentation et qu'on lui enlève sa femme, ses biens, ses troupeaux, etc. Alors c'est Satan en quelque sorte qui a le mauvais rôle, et ceci c'est pour préserver, en quelque sorte, c'est pour préserver Dieu, pour que Dieu reste, continue à avoir le beau rôle. De la même manière, dans le récit qu'a longuement expliqué tout à l'heure Philippe Soler, c'est l'esprit qui conduit Jésus à Satan. Bon, mais c'est Satan qui propose les tentations. Mais on voit bien qu'effectivement, dans tous les cas, c'est finalement Dieu qui a voulu cette tentation et qui en retire le plus grand profit. C'est-à-dire qu'à la fin du livre de Job, on constate que Job est resté fidèle, en dépit du fait qu'il a perdu tous ses biens, etc., et qu'on l'a laissé tomber comme une pauvre savate. Et néanmoins, on constate que Job est resté fidèle. Et Dieu dit, je te l'avais bien dit, que Job resterait fidèle, et que par là même, donc finalement, Dieu en sort victorieux. De la même manière, Jésus résiste à la tentation, et donc, en fait, tout ceci est pour montrer que Dieu est le plus fort. Donc, finalement, est venue petit à petit l'idée que Satan était en quelque sorte un fils de Dieu, si on peut dire, un instrument au service de Dieu, et qui était là pour servir les intérêts de Dieu. Il était au service de Dieu. Et ceci, en fonction d'une manière, je prendrai une image pour me faire comprendre, les avocats qui font des plaidoiries efficaces ou habiles, pour prendre le terme consacré pour les avocats, développent les arguments de l'adversaire afin de pouvoir mieux y répondre et de montrer la suprématie de leurs arguments sur ceux de l'adversaire. Mais d'une certaine manière, ils ont besoin, pour montrer le caractère victorieux de leur argumentation, d'exposer les arguments adverses de l'adversaire, de façon à montrer qu'ils sont quand même le plus fort. Hein? Vous me dites, vous, maître, qu'il avait un pull-over rouge, donc ça doit être lui qui est le coupable, mais moi je vous dis que, je ne sais pas pourquoi, il s'était fait teindre la veille, ou enfin je ne sais pas, peu importe. Enfin, bref, il répond aux arguments adverses, et sa victoire est donc de là. Mais, d'une certaine manière, pour être vraiment victorieux, il faut effectivement donner une place réelle à l'autre. C'est ceci, d'ailleurs, c'est une figure bien connue des judokas, où finalement, pour avoir une victoire sur l'autre, eh bien, il faut s'appuyer sur la force de l'autre. Il faut que l'autre déploie sa force, de façon à ce que, m'appuyant sur la force de l'autre, je puisse être victorieux sur mon adversaire. Donc, effectivement, tout ceci explique une sorte de schéma général, d'une certaine manière, où, en quelque sorte, Dieu laisse une certaine place à Satan, de telle sorte que sa victoire en soit encore plus éclatante. Et l'exemple le plus clair, c'est à propos de la mort de Jésus, puisque finalement, c'est Satan, nous dit-on, qui rentre dans le cœur de Judas, Judas qui livre et qui trahit Jésus, qui le conduit à la croix. Mais tout ceci de façon à ce que ça serve à la plus grande gloire de Dieu qui ressuscite Jésus d'entre les morts et qui donc montre sa victoire. Alors, bon, tout ceci peut paraître une sorte d'exploration un peu de ce qui se passe dans le ciel et par là même une sorte d'une manière de parler pour ne rien dire parce que finalement nous ne pouvons pas savoir ce que c'est qui se passe en haut et au-delà de nous. Alors moi je dirais une chose qui me paraît finalement plus simple et peut-être plus claire, qui est celle-ci. Nous appelons Dieu une certaine forme de l'énigme suprême qui nous tombe dessus, peut-être pas très loin de ce que finalement les anciens appelaient le destin. Enfin, quelque chose qui nous tombe dessus, qui est irréversible, irréfutable, et qui finalement nous tombe de manière arbitraire et que nous ne comprenons pas. Un peu comme le fait que Dieu préfère le sacrifice offert par Abel au sacrifice offert par Caïn. Pourquoi ? C'est comme ça, ça vous tombe dessus. C'est la manifestation qu'il y a une logique qui dépasse la logique des hommes et qui a un sens du bien et du mal qui dépasse le sens que nous avons, nous, du bien et du mal. Donc finalement, il faut appeler cette Dieu cette sorte de transcendance absolue, incompréhensible, énigmatique et cruelle. Et cruelle parce qu'elle détruit. Elle détruit finalement notre manière de voir les choses, et elle détruit nos efforts de bonne volonté, elle détruit notre logique. Et donc finalement cette force énigmatique et cruelle, ce glaive à deux tranchants du destin qui nous tombe dessus, ou d'un choix arbitraire qui nous tombe dessus, eh bien effectivement, nous sommes tentés de l'appeler Satan parce que finalement il est cruel. Mais à cause de ce qui a été dit en passant tout à l'heure, à savoir à cause de notre désir tellement fort que cette transcendance soit amour, eh bien nous persistons à appeler ce Dieu le bon Dieu. Mais ça, je dirais que le fait de l'appeler le bon Dieu, c'est une image de notre désir, c'est une conséquence de notre désir. Le premier nom de Dieu est d'être l'énigme cassante, frustrante, déconcertante, crucifiante.
Eh bien, voilà un autre discours. Notre jésuite Alain Ouzio a remis les boussoles vers le nord. Mais je vais repasser la parole à Stéphane Zaktanski. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à en dire. Par la même occasion, il y a une question qui est quelle réalité a pour vous Dieu et Satan? Est-ce que ce sont des formules de rhétorique, des symboles ou des êtres réels? Voilà, il faut arriver à répondre à ça en passant.